Amis auditeurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous poursuivons pour vous l'entretien avec M. Jean-Paul Brizel, juge au tribunal administratif de Nouméa, qui nous a parlé le mois dernier de la corrélation entre la doctrine sociale de l'Église et la loi naturelle. Jean-Paul, lors de votre deuxième conférence en mars dernier, vous avez abordé le sujet des droits de l'homme et vous avez évoqué deux séquences historiques d'émergence des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité. Voulez-vous nous en parler ?
Écoutez, très volontiers. Effectivement, l'enseignement de l'Église se réfère souvent aux droits de l'homme, mais je crois qu'il faut faire preuve, comme d'ailleurs les papes nous y invitent, il faut faire preuve d'un certain discernement, d'une certaine prudence quant à la relation aux droits de l'homme et notamment quant au contenu des droits de l'homme en fonction de ce que l'on veut évoquer. Alors je crois qu'il existe deux séquences historiques fondamentales de l'apparition des droits de l'homme ou de l'émergence des droits de l'homme dans l'histoire des idées. Le premier au XVIIIe siècle avec les grandes révolutions, celle des États-Unis d'Amérique et celle de la France. En tout cas, ce que nous concerne, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est un texte fondamental, qui est d'ailleurs inséré dans notre droit positif. Parce que, comme vous le savez, il est incorporé au préambule de la Constitution, donc c'est du droit lourd, du droit applicable. Mais il n'empêche que cette première séquence peut présenter certaines difficultés parce que cette vision des droits de l'homme privilégie une approche individualiste. C'est le primat de l'individu et ce n'est pas le primat de la communauté ou de la famille. Donc souvent, ces droits de l'homme, si on n'y prend pas garde, peuvent avoir des applications assez délicates. Elles peuvent même aller à l'encontre des droits de l'homme tels qu'on a pu les définir. Si je prends un exemple, par exemple, vous savez qu'actuellement, on débat beaucoup du droit au suicide médicalement assisté. Eh bien, les promoteurs de cette démarche, qui est évidemment très choquante pour la conscience, se réfèrent aux droits de l'homme et disent qu'ainsi, le suicide médicalement assisté pourrait être un droit de l'homme éminent, comme le droit à l'euthanasie, etc. Vous voyez, toute cette philosophie nouvelle fondée sur les bioéthiques et en définitive se rattache à cette première séquence historique et on voit que, d'une certaine manière, c'est la négation même des droits de l'homme. En revanche, il existe une deuxième séquence historique qui, à mon avis, est beaucoup plus profonde. C'est celle qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, vous savez que c'était un choc de la conscience mondiale, de la conscience européenne, et que là, il y avait un enseignement disponible. C'était l'enseignement de l'Église. Il y avait une doctrine sociale qui a été formalisée d'un certain nombre d'encycliques, dont l'encyclique Rerum Novarum de la fin du XIXe siècle, mais d'autres encycliques subséquentes. Et là, il y avait pour les hommes politiques un savoir disponible. Et c'est précisément sur ce savoir que se sont construits les grands textes, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme la Convention européenne des droits de l'homme, également les institutions, comme l'Europe, qui puisse sa source dans cet enseignement. Donc évidemment, cette deuxième séquence historique a généré une seconde conception des droits de l'homme qui est beaucoup plus en harmonie avec le droit naturel et l'enseignement de l'Église.
Vous êtes le sel de la terre et pour le monde vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde, vous êtes la lumière.
Quel lien peut-on établir entre l'Évangile et les droits de l'homme ?
Écoutez, je serais tenté de vous dire de manière très concise, il faut se relier à cette deuxième version des droits de l'homme, celle qui a prévalu donc au XXe siècle, après la catastrophe, après les totalitarismes, après la tragédie de ce qu'a été le nazisme, on a vu l'émergence, si vous voulez, de ces droits de l'homme. Je crois que le promoteur a été le pape Jean-Paul II, le bienheureux Jean-Paul II, hein, qui a été une figure historique considérable et qu'une certaine manière a réussi à infléchir le déterminisme historique tel que le souhaitaient les marxistes.
On peut donc dire que la culture des droits de l'homme a des racines chrétiennes.
Ah, je le pense. Je le pense. Et vous savez qu'on considère que Saint Benoît pourrait être le patron de l'Europe. Et que la règle de Saint Benoît n'a pas été étrangère au concepteur de l'Europe. En tout cas, certains principes de droit ecclésiastique, comme le principe de subsidiarité, étaient pris en compte dans la construction de l'Europe. En tout cas, tous les pères fondateurs de l'Europe étaient des chrétiens et profondément imprégnés de la doctrine sociale de l'Église.
Pourquoi donc notre époque moderne a-t-elle à ce point tenté d'ignorer la loi naturelle ?
Eh bien, comme je vous le disais, il faut se référer à cette crise métaphysique, c'est-à-dire ce rejet de toute transcendance. Et lorsque on rejette la transcendance, eh bien, tout est possible. On rejette la loi naturelle, on lui substitue le contrat social, c'est-à-dire celui qui est arithmétiquement le plus fort, et ce qui fait vérité. Souvenez-vous de cette terrible phrase de monsieur Léniel dans les années, enfin 1982, hein, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Donc la minorité a supposé même qu'elle détienne la vérité, aurait tort parce qu'elle ne serait pas politiquement majoritaire. C'est une véritable tragédie, parce qu'elle substitue un contrat, un accord, à ce qui, normalement, est inscrit au cœur de l'homme, comme Kant lui-même le disait.
Qui est ce père qui espère? Quel est cet homme qui pardonne? Quel est ce cet homme qui pardonne? Quel est ce vent qui invente? Qui est ce père qui espère? Quel est cet homme qui pardonne? Quel est ce vent?
Pour conclure.
Écoutez, très volontiers, je crois que la doctrine sociale de l'Église doit être appréhendée comme vous le faites. Et comme ces conférences ont été organisées, c'est quelque chose qui doit se faire par petits groupes. Et non pas d'une manière théorique, mais en recherchant ce que l'on peut soi-même, dans sa propre existence, instiller comme pratique, comme méthode, qui se rattache à la loi naturelle. Vous voyez ? Et si d'aventure la loi naturelle était violée par des principes qui seraient contenus dans le droit positif, comme ce dont j'ai parlé, par exemple, pour le suicide médicalement assisté, notre devoir est de refuser. Et moi, je suis un adepte de la désobéissance civile. On doit désobéir lorsque une loi qui nous est proposée est contraire aux normes de notre conscience.
Merci beaucoup, Jean-Paul. Si vous le voulez bien, le mois prochain, nous parlerons de la dignité humaine. Notre émission se termine, amis auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitant à tous un bon dimanche.